6h-8h.
Matin première.
Medical Fat.
Merci de vous réveiller avec nous. Il est 7h10. Depuis 25 ans, les scandales de pédophilie par des prêtres catholiques n'en finissent pas d'éclater au grand jour. Moment fort ce week-end, lors de sa visite en Irlande, le pape François a demandé pardon. Pardon pour les agressions sexuelles commises dans ce pays par des prêtres catholiques. 14 500 enfants seraient concernés. Avec nous, Tommy Scholtes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole des évêques de Belgique. Chaque intervention du souverain pontife autour de ces drames sont scrutées, observées, ce qui semble normal vu les souffrances que cela a suscité au-delà de ce qui s'est passé en Irlande. Est-ce que les excuses du pape François sont suffisantes selon vous ?
Mais je pense que d'abord elles sont essentielles parce que la souffrance des enfants est réelle. En Belgique, on a connu des situations extrêmement graves aussi, et donc des centaines de personnes ont été reçues. Il y a un tribunal d'arbitrage qui a été mis en place, des instances ont réfléchi, il y a une forme de réparation, entre guillemets, financière qui a été installée, donc il y a une structure qui a été faite aussi. Je pense que c'était absolument indispensable que le pape demande pardon. La réalité des enquêtes qui sont en cours et qui ont eu lieu ont toujours aussi la difficulté de l'histoire, c'est-à-dire comment rétablir, redire exactement ce qui s'est passé. Mais sur le fond, absolument, c'est la première chose à faire. Après ça, il y a des sanctions qui sont prises par rapport aux personnes qui sont en vie, parce que on parle souvent d'histoires qui remontent à 60-70 ans, donc beaucoup de ces personnes agresseurs ne sont plus en vie. Mais là où il est question de personnes qui sont toujours présentes, il y a évidemment des sanctions à prendre.
Alors l'Église est dans la tourmente à travers le monde. Vous avez évoqué la Belgique il y a quelques temps, des mythes victimes aux États-Unis, en Allemagne des enfants de cœur de Ratisbonne, en France un prêtre sous contrôle judiciaire pour avoir abusé de 70 scouts, au Chili 158 personnes visées par des enquêtes pour sévices, et j'en passe. Comment mettre un terme définitif à tout cela ?
Je pense que je suis le premier ou le dernier, c'est comme vous voulez, à vouloir que, évidemment, cela s'arrête, mais cela fait malheureusement partie de la nature humaine. Et donc, très malheureusement, le problème de la pédophilie n'est pas lié du tout à l'Église. Il est présent dans la société et tous les jours, dans les journaux, on en parle comme un drame. Mais dans l'Église, il faut donc, je dirais, contrôler un maximum les gens, rendre attentifs les gens. Dans sa dernière lettre au peuple de Dieu, le pape l'a écrite la semaine dernière, le pape a demandé à toute l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens aussi, à tous les citoyens finalement, d'être extrêmement attentifs à tous les comportements qui pourraient être déviants, qui pourraient être harceleurs, qui pourraient être agressifs, qui ne respectent pas la dignité d'enfant.
Ce que vous dites, c'est qu'à un certain moment de l'histoire, le choix, la formation et l'encadrement des prêtres a pu être en cause ?
Mais je ne pense pas, je pense que dans la nature humaine, il y a heureusement chez évidemment, doit être arrêté, qui doit être canalisé, qui doit être condamné. Mais cette réalité-là, elle existe chez n'importe quel homme et même femme. Donc ça, c'est une réelle difficulté. C'est pas une question de formation. Peut-être qu'à un moment donné, on a trop idéalisé la fonction du prêtre. Ça, c'est possible. Hein, qu'on a voulu protéger les prêtres quand il y avait des questions. Et donc cette situation-là est tout à fait retournée maintenant depuis quelques années, où clairement les prêtres, il y en a d'ailleurs un certain nombre. Vous venez de le dire vous-même, qui sont en prison pour des faits comme cela.
Alors vous dites le prêtre est un homme comme les autres, pas tout à fait, puisque se pose souvent la question du célibat des prêtres pour éviter les frustrations. Est-ce qu'on doit autoriser les prêtres à avoir une vie affective et sexuelle ?
Je revendique, même si je n'ai pas de vie affective et sexuelle, si je ne suis pas en couple, je revendique quand même d'être un homme comme les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, le prêtre qui se prépare, le séminariste qui se prépare, fait un choix librement consenti de dire je choisis cette vie-là, qui est une vie qui n'est pas facile, je le reconnais, une vie qui n'est pas facile, mais de se consacrer totalement à Dieu dans le célibat. Et donc, j'essaye de vivre le mieux possible ce don. Ça ne veut pas dire que le sacerdoce marié ne peut pas exister. Il y a des prêtres mariés, y compris déjà dans l'Église catholique, pour les prêtres d'Orient, pour les prêtres orthodoxes, cela existe aussi. Et donc, c'est une réalité qui est posée. La question a d'ailleurs été posée au Vatican, et elle n'est pas fondamentale par rapport à la prêtrise. Autrement dit, il est possible, et que peut-être le Vatican, dans cette situation-là, va davantage réfléchir à la question, mais je pense aussi, et ce sont des responsables d'église d'Orient qui nous ont dit à plusieurs reprises, ne croyez pas que les questions affectives et sexuelles sont réglées par la question du mariage. Il y a un tas de difficultés aussi qui existent au niveau des couples, au niveau des personnes mariées. Et donc, c'est vrai que cela peut paraître une espèce de solution, mais ne croyez pas que toutes les personnes qui sont non-prêtres ou non-catholiques qui sont en prison pour des questions pareilles sont des questions des personnes célibataires, ça n'est pas vrai.
Mais donc, ça arrive dans les familles, dans les affaires incestueuses, etc., évidemment, bien sûr. Mais ça pourrait être un élément qui permettrait de...
Cela pourrait être un élément, et je crois que cet élément vaut la peine d'être réfléchi. D'ailleurs, plusieurs fois, ces dernières années, il y a eu des déclarations, y compris de la secrétaire d'État du Vatican, qui a précisé que c'est une affaire, comme nous disons dans notre jargon à nous, une affaire de discipline, c'est-à-dire d'organisation. Ça n'est pas une affaire fondamentale liée à ce qu'est la prêtrise ou le sacerdoce, puisque déjà, pour les prêtres orientaux catholiques ou bien pour les prêtres orthodoxes, il existe des prêtres mariés.
Pour vous, les évêques de Belgique ont pris la mesure de la situation ?
Oui, pleinement. Ça, je dois dire que je reconnais que pendant toute cette période extrêmement difficile, parce qu'il faut bien se rendre compte que nous sommes les premiers à être honteux. Vous imaginez que moi, quand je me réveille le matin et que j'entends des choses de ce genre-là, je dis mais c'est encore de nous qu'il s'agit. Et quand je dis nous, c'est ma famille, l'Église catholique, c'est ma famille. Les prêtres sont tous concernés, et l'Église catholique étant entièrement concernée. Et fondamentalement, les évêques de Belgique ont pris énormément de temps à recevoir. Et quand je dis énormément de temps, ce sont des centaines d'heures à recevoir les victimes et aussi à s'adresser aux auteurs quand ils le pouvaient, et en faisant aussi... bien sûr, non seulement démissionner, mais y compris retirer leur statut de prêtre à un certain nombre de personnes. Et donc, les sanctions ont été très fortes quand même.
Pour terminer, je voulais vous faire réagir aux propos du pape qui ont été évoqués tout à l'heure dans le journal de 7h. Un journaliste a demandé au pape, que diriez-vous aux parents qui constatent les orientations homosexuelles de leur enfant ? Réponse du pape, quand des tendances homosexuelles se manifestent dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie. François recommande aussi de prier, de ne pas condamner, de dialoguer et de comprendre. La psychiatrie, est-ce que c'est la position des évêques de Belgique ?
Mais je pense que, si j'entends les propos du pape, c'est vérifier simplement, avoir un accompagnement. Je pense que découvrir une réalité pareille chez son enfant, il faut quand même voir aussi si ce sont des choses qui sont transitoires, comme cela peut arriver au moment de l'adolescence, par exemple. Et donc il faut, je crois, aider un enfant à se situer, aider des parents à entrer dans une situation, à comprendre une situation. Et donc la psychiatrie ou la psychologie, ce sont des manières d'accompagner la réflexion de la personne et des personnes, et je pense que ça peut être un conseil judicieux comme n'importe quelle situation un peu surprenante qui arrive dans une famille, c'est-à-dire on ne reste pas seul dans des inquiétudes ou dans des jugements, on se fait accompagner et cela permet de voir clair progressivement.
Mais pour vous, l'homosexualité ne découle pas de troubles psychiatriques ?
Non, ce n'est pas une question de troubles psychiatriques, c'est une question d'une certaine nature chez les personnes, je pense, entre-temps, je dirais sur les dernières années, on a bien perçu cela, et c'est bien pour ça qu'il est toujours question de dialogue, de non-jugement et de respect total de la personne.
Merci Monsieur Scholtes d'être venu ce matin commenter et discuter de ces thèmes qui sont souvent difficiles pour l'Église. Merci d'être venu aussi franchement ce matin dans Matin Première. À très bientôt.
À bientôt.
Il est 7h19 et vous retrouvez Antoine Binamé avec une mauvaise nouvelle sur la route puisque ça coince toujours sur la E40 vers Bruxelles.
Oui, effectivement, Médien, inhabituel à cause d'un chantier à Berthem. Les fils remontent jusqu'à Birbeek sur le 40.